France Maghreb.
À la une de ce grand forum pour ce vendredi, assassinat de Soleimani, considérez-vous la réponse iranienne à la hauteur des enjeux? On en parle dans un instant avec Audrey Pradesti, Tariq Mami et Farid Talsamani. Vous, amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000 pour répondre à cette question. Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2. L'Algérie peut-elle être un médiateur dans la crise libyenne? On voit que ça bouge du côté d'Alger, ça discute. Le président Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, ont rencontré différents homologues pour essayer de trouver une solution à cette crise libyenne. 37e jour de grève, faut-il savoir terminer une grève? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser au lendemain de la 4e manifestation, journée de mobilisation. Est-ce qu'on va vers une fin ou est-ce qu'on va vers une continuité encore plus dure? C'est la question qu'on tentera de se poser au vu des différentes rencontres que le Premier ministre a à faire aujourd'hui avec les syndicalistes. Sans oublier à la fin de cette émission, le quiz actu avant 18h. Le Grand Forum, le LGF, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio ce vendredi. Nous sommes jusqu'à 18h en votre compagnie comme chaque jour, un peu vos yeux et vos oreilles pour vous informer, décrypter l'actualité. Combien chargé encore une fois aussi bien au national qu'à l'international, puisque nous allons parler aujourd'hui, tout à l'heure en dernière partie, de cette mobilisation autour de la réforme des retraites. Il y a des rencontres aujourd'hui autour du Premier ministre Édouard Philippe. L'âge pivot qui était en question, notamment par la CFDT, ne semble pas être abandonné. On est un petit peu au point mort, on verra cela en détail tout à l'heure. Nous parlerons un peu de l'Algérie. L'Algérie qui se place en tant que pays médiateur dans une crise politique pour éviter une nouvelle guerre en Libye. On peut le comprendre, l'Algérie qui partage quand même plus de 1000 km de frontière avec ce pays, la Libye. Elle a reçu l'Algérie des officiels d'Italie, d'Égypte, qui sont venus en Algérie. Le président turc qui devrait aussi venir rencontrer le président Tebboune. Donc ça s'accélère côté diplomatie, bien sûr, en Algérie. Et puis on va parler évidemment de la situation iranienne avec ces nouvelles accusations justement qui proviennent du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui affirme avoir les preuves que l'avion de Ukraine Airlines qui s'est crashé Donc il y a deux jours, viendrait d'un missile iranien, selon Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. On va en parler tout cela avec vos appels au 01 40 33 9000. Et cette question aussi que l'on vous pose aujourd'hui, assassinat de Soleimani, considérez-vous la réponse iranienne à la hauteur des enjeux? Vous savez qu'Iran a répliqué en bombardant justement des bases américaines en Irak. Et il y a eu un jeu de com', hein, puisque Donald Trump s'est exprimé au lendemain de ces attaques, estimant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas eu de blessés ni de morts. Or, la télévision iranienne a annoncé 80 soldats tués. Donc un petit peu sur ces dernières informations, ces dernières nouvelles que l'on va développer au cours donc de cette émission, avec pour nous accompagner aujourd'hui Audrey Pronosti. Comment ça va, ma Audrey?
Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour.
Ça va super bien.
Comment ça va?
Ouais,
bien.
Ça va. Bon, ouais. Le temps est pas super, mais on garde la pêche quand on est là. De toute façon, hein, je l'ai toujours dit. Hein.
Absolument.
Eh oui.
Et ton collègue aussi à côté.
Hein? Eh oui.
Bonjour. Il est à l'heure en plus.
Je suis, ouais, je suis présent.
Ouais. Farid Tamsamani, comment ça va, mon Farid?
Très bien, merci. Et toi, Christophe?
Très très bien, ravi de te voir.
Ça pareillement.
Va, ça caille un peu en moto?
Non, ça va. C'est juste que comme le sol est un peu mouillé, c'est toujours un peu plus délicat.
Ouais.
En deux roues.
Et nous attendons le dernier, qui est pour le coup en retard là aujourd'hui. Tariq Mami.
Ah, je suis pas le dernier, pas mal.
Ah ouais, pas mal. Pas
tu peux être fier.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Bon, alors on va en première partie parler de ce qui se passe en Iran. D'abord, Farid, oui. Peut-être commencer par nous dire un petit peu comment t'as perçu ce qui s'est passé au cours de cette semaine très chargée. Entre les Iraniens et les États-Unis, ça s'est beaucoup accéléré. On est passé à l'offensive du côté iranien. Est-ce que la réponse iranienne à l'assassinat de Soleimani te paraît à la hauteur des enjeux?
À la hauteur des possibilités de l'Iran, je dirais.
C'est ce que j'allais dire.
Des enjeux, c'est un bien grand mot. Non, tout ça est du cinéma parfaitement orchestré. Je trouve, de part et d'autre, les Iraniens sont tombés dans le panneau des Américains Et vice versa, j'ai envie de dire. Alors juste une petite correction, en fait, il s'agit pas de bases américaines hein, qui ont été visées, hein. Ce sont des bases bien irakiennes avec sur place effectivement des intérêts américains. Parce qu'il existe d'autres bases purement américaines sur le sol irakien. Donc je sais pas si nos auditeurs ont suivi. En réalité, il n'y a pas de morts. Les Iraniens ont savamment prévenus de leurs attaques. Bon, tout ça est très très géopolitique, très stratégique. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que
il y a pas de mort selon les États-Unis. Hein.
Non, mais il y a pas de mort sur ces attaques-là, en tout cas.
Oui,
malheureusement, les morts, c'est l'avion qui a été détruit.
Oui, non, mais parce que la télévision iranienne a annoncé 80 personnes touchées mortes.
Donc, sur le soir, mais en réalité, elle est revenue dessus. Hein. Il y a pas de mort en fait sur les attaques, et l'objectif n'était pas de faire des morts. C'est ce qu'on appelle la propagande interne. Ce qui est certain, ce qu'il faut retenir d'un point de vue à mon avis, les quelques éléments qui sont intéressants à voir, c'est que l'Iran avait promis une riposte, elle a tenu parole, ce qui est quand même déjà pas mal. Ensuite, elle l'a fait répondre cette riposte là par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, ce qui est traditionnellement en fait est plutôt intéressant, parce que traditionnellement l'Iran ne répond pas par eux, répond de manière détournée par d'autres milices,
d'autres factions.
Et en réalité, il va y avoir d'autres réponses beaucoup plus subtiles qui ne seront pas forcément les plus visibles.
Ouais.
C'est ce qu'il faut s'attendre. Ce qui est certain, c'est que l'Iran n'a aucun intérêt à aller beaucoup plus loin, et les Américains ont aucun intérêt à aller plus loin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout ce cinéma là? Hein, André, pourquoi tout ceci?
Pourquoi, oui, pourquoi?
Alors déjà, juste, je veux revenir sur ce que tu disais au tout départ. Oui, je te rejoins sur un point, c'est quelle est la marge de manœuvre en fait de l'Iran. Effectivement, elle a répondu, mais faut quand même rappeler que elle, par rapport aux États-Unis, voilà, elle a pas la même force militaire. On a d'un côté les États-Unis qui sont quand même la première force militaire mondiale, et de l'autre côté l'Iran qui n'est qu'à la 14e place. Bon, c'est déjà pas mal, mais à côté, ça. Voilà,
ouais,
y a pas photo.
À mon avis, un peu exagéré, mais bon, c'est.
Y a pas
c'est...
Photo.
Après, on est loin peut-être d'estimer la capacité militaire de l'Iran, hein, parce que.
Alors, c'est
y a,
là où je voulais...
y a effectivement, Farid, il y a effectivement ce que disent l'Iran, voilà, posséder. Et puis, il y a peut-être des choses qu'ils ont quand même conçues.
Justement, je voulais rajouter ça, c'est que ils ont quand même une possibilité de nuisance
bien sûr.
Des Américains qui est quand même très importante, justement, par rapport aux pays de la région qui sont alliés aux États-Unis. Déjà,
on rappelle Donald Trump qui dit l'Iran ne se dotera pas de la bombe.
Alors ça, je suis beaucoup moins sûr.
Parce que c'est une phrase, d'ailleurs, il a commencé, je crois que ça a été l'une de ses premières phrases. Et ça, c'est pour rassurer un petit peu son électorat, plutôt son milieu politique. Rassurer aussi les démocrates, hein, qui lui font une guerre impitoyable à Donald Trump, en disant, voilà, vous inquiétez pas, l'Iran ne se dotera pas de la bombe.
Et comment il peut en être sûr, là, je veux dire...
Il est en campagne, hein, Donald Trump, faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr. C'est ça aussi que je voulais dire dans mes propos, c'est que voilà, il est en campagne électorale, et sachant que on est dans une situation où il n'est pas forcément très bien vu, les démocrates essayent de le destituer. Voilà, aujourd'hui, il veut montrer que, en tout cas vis-à-vis de son électorat, je parle, qu'il reste en tout cas l'homme de la situation par rapport à ce qui s'est passé à Bagdad, voilà, et pour justifier bien évidemment le raid américain contre Qassem Soleimani.
Oui, Farid.
Oui, il y a plusieurs choses. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est-à-dire face à l'Iran, et ce qui se passe aux États-Unis.
Ouais.
Donc, je vais revenir deux secondes sur ce qui se passe en Iran. Enfin, en tout cas, face à l'Iran, et notamment sur le territoire qui n'est pas iranien, qui est celui d'Irak. Faut pas oublier ça, c'est que l'Iran est une force, un peu comme les États-Unis le sont d'ailleurs en Irak également. Ils sont pas chez eux. Les Iraniens ne sont pas chez eux en Irak. Il faut pas oublier.
Ils sont pas chez eux, mais on peut pas nier quand même qu'il y a une réelle influence.
Il y a l'influence religieuse qui est tout à fait vraie.
D'ailleurs, les Irakiens l'ont rappelé. Hein.
Et une partie des Irakiens, il faut pas oublier.
Ils l'ont rappelé par rapport aux attaques des bases, justement.
Oui, oui.
Que, ils voulaient pas que ce soit un champ de bataille.
Attention.
Mais... Non, attends. Lorsque le général a été assassiné.
Oui, c'était son
premier. Une partie des Irakiens ont salué cet assassinat. il faut mesurer notre l'anti-américanisme primaire.
Oui.
C'est-à-dire que en Iran, vous avez depuis que le régime de Saddam a été renversé,
oui,
notamment, globalement, vous avez une victoire, un retour, s'il vous plaît, sur la scène politique et de pouvoir de la majorité du pays, c'est-à-dire iranienne, chiite, excusez-moi, donc plus ou moins lié à l'Iran parce que le dogme chiite est particulier face à ceux qui avaient le pouvoir, notamment Saddam Hussein, qui étaient des sunnites. Donc c'est très religieux, oui, en vérité. Premièrement. Deuxièmement,
sur l'aspect
purement militaire, l'Iran n'a aucunement les moyens de faire front face aux États-Unis, voire même à d'autres puissances régionales.
Ah, de façon frontale, c'est
ça, c'est impossible. Ensuite, l'Iran est sous menace américaine et sous sanction américaine depuis maintenant pas mal d'années et qui lui fait un tort, vous ne pouvez pas imaginer, et notamment depuis que Trump est arrivé au pouvoir. En réalité, d'après ce que je sais, c'est que le pouvoir iranien, le pouvoir de la révolution islamique, était plutôt en train de s'effondrer. Il y a quand même, un peu comme en Algérie, en Iran, il y a une révolution d'une partie de la jeunesse, etc., qui voulait vraiment faire évoluer le pays. Ce qu'il faut juste savoir avant de repasser aux États-Unis, c'est que...
Mais avec ce qui s'est passé quand même, par rapport
Là, il y a quand même
une cristallisation
pourquoi
qui se fait en faveur.
Mais pourquoi?
Bah oui.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un élément qui est fondamental dans la région qui s'appelle Israël. Israël a comme doctrine de ne pas avoir sur sa région, sur sa zone de confort, entre guillemets, une autre puissance aussi importante que la sienne. Les Iraniens sont chiites et non
le
pas...
Le 52e État des États-Unis.
C'est un plus complexe que ça, mais pourquoi pas. En tout cas,
ça peut être aussi simple, hein, des fois, Farid.
Non, la géopolitique, c'est toujours beaucoup plus délicat.
En tout cas, ils sont alliés, ça.
Ce qui est certain. Après, je fais une petite parenthèse de Christophe, c'est qui a vendu le général d'après vous?
Ah, alors ça, il y a des rumeurs.
Très bonne question.
Non, mais il y a des rumeurs là-dessus.
Il y a les rumeurs et puis il y a la réalité des choses.
Il y a Netanyahou, par exemple.
Non.
Par exemple, hein, on dit qu'il y a Netanyahou.
Il n'y a pas les moyens.
Je sais pas s'il a pas les moyens, mais en tout cas, qui a vendu alors, d'après toi?
Pour moi, il y a un allié des États-Unis qui ne se dit pas forcément allié pour la masse des gens et notamment des auditeurs qui nous écoutent, qui s'appelle la Russie.
D'accord.
Je ferme la parenthèse. Ça sera probablement confirmé ou infirmé dans les mois qui viennent. Mais juste pour revenir deux secondes à l'Iran avant de repasser aux États-Unis. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime islamiste en Iran est le meilleur allié des Américains indirectement. Et pour le régime de Téhéran, le meilleur allié, c'est un mec comme Trump. C'est que ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir en Iran allait s'effondrer, parce que pour les gens qui connaissent l'Iran, qui vont sur place, économiquement, c'est la catastrophe depuis que les États-Unis ont décrété que plus aucune goutte de pétrole ne serait vendue à l'extérieur.
Et justement, ils misaient là-dessus pour
exactement. À part le Qatar, qui finance, pour différentes raisons, qui finance le régime de Téhéran, les réserves financières de Téhéran, en fait, étaient très faibles. Le régime était, je suis pas devin, mais était globalement très mal en point. Cette attaque du général, cet assassinat du général et la réponse, notamment face à Trump, a permis une seule chose, et tu as complètement raison, Audrey, c'est de ressouder la population iranienne.
Oui.
Ça, c'est une évidence. Et donc, le régime est reparti pour quelques mois. Du côté des États-Unis, contrairement à ce que l'on dit, c'est que les démocrates qui se battent contre Trump, ce sont les démocrates qui sont à la Chambre des représentants.
Mmh.
Ça n'est pas le peuple américain.
Oui, mais bon, il y a
le peuple américain.
D'impeachment qui est
complètement.
Qui est
et d'ailleurs, c'est une des raisons principales qui a fait que Trump est reparti sur la scène internationale et qui, globalement, à mon avis, est en train de gagner l'élection présidentielle. Mais il faut peut-être pas s'avancer. Ça, c'est qu'en novembre, c'est qu'à l'automne prochain, c'est toujours un peu plus subtil. Ce que je peux te dire pour connaître un peu la géopolitique américaine et surtout le peuple américain. Si vous enlevez New York et San Francisco, pour la faire très très courte, je vais caricaturer un peu, mais qui on va dire un peu les bobos ricains.
Ouais.
Si vous enlevez ces deux régions-là, l'immense majorité des Américains, je dis bien l'immense, je parle pas de la majorité, l'immense des majorité ne soutient pas forcément Trump d'ailleurs, mais sera de toute manière, fera front comme en Iran, pour les États-Unis d'Amérique.
Hein.
Et c'est pour ça qu'en fait c'est très bien joué des deux côtés, c'est malheureux pour l'évolution de la région, j'ai envie de dire, ça c'est mon avis personnel, mais globalement, les Américains vont faire front. Et d'ailleurs, si vous avez bien regardé, c'est que l'Iran a attaqué deux bases irakiennes avec des intérêts américains sans faire de mort, même si elle a dit tout de suite au début le contraire, mais finalement, en réalité, elle revient en arrière. Elle n'a pas attaqué les bases véritables où il y avait des Américains. Et elle le connaît, elle les connaît. Premièrement. Et deuxièmement, Trump, dans sa déclaration de presse tout de suite après, quand on voit les déclarations de Trump, globalement, il a fait un peu, il est retombé en température. C'est-à-dire que aucune des deux parties n'a intérêt
à faire de la surenchère.
À faire de la surenchère.
Mais bien sûr.
Tout simplement.
Bien sûr.
Et Trump a dit d'ailleurs que voilà, on n'avait plus besoin d'Iran en quelque sorte pour le pétrole. Et on rappelle quand même l'objectif quand même de toute cette région, Farid, oui. d'Audrey, c'est oui. le départ des Américains.
Oui.
L'objectif, c'est-à-dire les Américains. Bah, l'objectif de tous ces pays, l'Iran.
Mais moi,
tous les pays ne veulent pas le départ des Américains.
Quel pays veut que les Américains restent?
Des pays, tu parles de pays?
Oui.
Bah, je peux parler de l'Arabie Saoudite, je peux parler du Qatar, des Émirats Arabes.
D'accord.
Même si Donald Trump enlevait ses troupes en Irak,
il les a pas enlevées.
Non, mais j'ai dit même si. Eh ben, faut quand même rappeler que, il a des, comment ça s'appelle, des bases tout autour, dans tous les, il a quand même envoyé un renfort assez conséquent dans la région. Donc,
mais ceux qui pensent que les Américains vont quitter la région sont bien naïfs.
Moi, j'y crois pas non plus.
Ça n'existe pas. Juste pour une autre parenthèse, les Américains se sont appuyés sur les Iraniens pour faire le travail en Syrie. Faut pas oublier ça.
Oui, non,
c'est-à-dire que tout ça c'est un peu du cinéma à mon sens, parce que justement ils sont alliés de temps en temps. Alors ils l'annoncent pas, hein, faut pas se mentir. Hein, il y a toujours des entremetteurs tels que potentiellement la Russie. Mais la réalité c'est que vous avez une puissance qui, on peut appeler ça comme on veut, mais qui aujourd'hui est présente.
De toute façon, on sait quand même que la Russie elle est alliée avec les États-Unis, c'est pas un secret.
Ah bah pour beaucoup de gens en fait, ils pensent le contraire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent réellement.
Non mais c'est fini qui pensent réellement. La guerre froide, tout ça.
Non mais c'est en fait bon. Est-ce que j'ai 2 minutes, Christophe, ou pas? Pour faire pour de la géopolitique ou pas.
Tu rappelles.
On fait que ça tout à l'heure.
Non. Alors du coup, au-delà de cette région-là.
Oui.
En fait, ce qu'il faut considérer, tout à l'heure Audrey l'a dit, c'est que il n'existe la première puissance militaire mondiale, ça reste les États-Unis. Mais j'ai envie de vous dire tout simplement la première puissance mondiale tout court, ça reste les États-Unis d'Amérique.
Oui.
Qu'on le veuille ou non.
C'est clair.
Pourquoi? Parce qu'en géopolitique, en fait, vous vous basez sur un certain nombre de leviers. C'est le levier naturellement militaire, le levier financier, le levier économique, le levier diplomatique.
Ouais.
Sur tous ces éléments-là, vous avez des tas de pays qui sont parfois soit des leviers économiques, soit diplomatiques, soit un de chaque, mais jamais l'ensemble.
Mmh.
Aujourd'hui, à part les États-Unis d'Amérique, vous avez qui? Vous avez la Chine, qui à un moment donné essaye de devenir une puissance complète, ce qu'on appelle une puissance complète en géopolitique.
Ouais.
Il lui manque à l'heure où on parle l'aspect purement militaire, mais je pense que dans les années, dans les décennies qui viennent, ça sera complètement réglé. Mais aujourd'hui, personne, et notamment la Chine, ne peut absolument pas se passer des Américains. Donc,
c'est une évidence.
C'est une évidence. Non mais parce que tu sais, quand tu lis tu t'écoutes ou tu lis certaines personnes, t'as l'impression quand même que les Chinois vont s'en mêler, que les Russes vont s'en mêler.
Les
États-Unis d'Amérique est la seule puissance complète à l'heure où on parle. Alors, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Ça sera probablement pas le cas un jour dans l'avenir. Mais jusqu'à présent, Dieu leur a permis d'être de cette puissance complète.
Bon, alors, on est avec Farid Tamsamani, avec Audrey Presti, qui sont avec nous. Et puis Tarek Mami aussi, parce que vous savez que le vendredi, c'est...
Tarek Mami, tant que c'est possible.
Voilà. Tarek Mami qui a dû bondir en écoutant ce qui a été dit quand même.
Oh oui, hein, beaucoup, forcément. Oui,
je suis sûr, là. Il y a débat, les amis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En fait, cher Farid, il a raison à 1000% à une condition. Que le critère de la domination du jour soit ceux imposés par les Américains depuis 1945.
Oui.
Bon.
Oui, mais.
Mais attendez.
C'est ce que j'ai dit.
Non, attendez. Mais si on prend pas ces critères-là.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, si on élargit à l'histoire tout court de l'humanité, mais les États-Unis n'existaient même pas,
non.
Que les Perses par exemple, si on parle des Iraniens, les Perses sont une extraordinaire civilisation.
Même aujourd'hui, quand vous prenez d'autres critères, c'est-à-dire que par exemple le critère chinois n'est pas un critère de domination militaire du monde.
Ah, je suis pas d'accord.
C'est en train de le devenir. Non.
Mais il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique.
Oui, non, mais en Afrique, j'allais dire, la domination, faut lire, alors si on veut parler de ça, faut toujours lire le Brzezinski, qui est le plus grand géostratège américain.
Je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave.
Bon, c'est Brzezinski.
C'est un grand stratège, il n'y a pas de souci.
Mais c'est l'un des plus grands.
Ah oui, l'un des plus grands.
C'est lui qui a préparé quelque part le travail de la chute de l'Union soviétique.
D'accord.
Avec le pape. Faut pas oublier cette dimension-là.
Bien sûr.
Mais faut lire les derniers textes de Brzezinski juste avant de mourir. Et Brzezinski écrit une phrase terrible. Il dit, en fait, pour nous, les États-Unis ont été l'empire du monde depuis 1945. Sauf que on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas empire pendant 30 ans ou 50 ans. C'est pas la durée normale. Deuxième, on passe du monde unilatéral de la force militaire des États-Unis à un multipolaire qui va faire rentrer beaucoup de choses, y compris une guerre américano-russe qui a une revanche à prendre sur la trahison faite aux dirigeants de la perestroïka qui ont signé l'accord donc pour exploser l'Union soviétique avec un accord formel des Américains de ne pas dépasser la frontière de l'Allemagne et qui se retrouve aujourd'hui dans toutes les frontières. Et la deuxième chose, les Chinois. Il dit, en fait, à certains moments, les États-Unis, pour rester première puissance encore pendant 50 ans, encore pendant un siècle, elle doit faire deux choix. Le premier choix, c'est de choisir qui est son ennemi principal, la Chine ou la Russie. Et la deuxième, et en tout état de cause, tout faire pour que le dollar reste la monnaie montante.
Oui.
Elle peut éventuellement perdre la première bataille.
Exactement.
Entre et choisir, et pour moi je recommande de choisir la Chine comme allié principal des Américains et pas les Russes, parce que historiquement, il n'y a pas eu de gros contentieux entre les deux, ni trahison de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est Brzezinski, c'est pas moi.
Ah oui.
Et il rajoute derrière, par contre, tout à tout perdre, il faut maintenir le dollar, parce que je vous dis, moi, Brzezinski, le jour où le dollar ne sera pas la monnaie du monde, il n'y aura plus.
C'est précisément le rappel que. C'est précisément le rappel que j'ai fait pour être une puissance complète. Ouais. Si on devait faire un comparatif de ces trois pays-là, les Russes sont une puissance militaire.
Ouais.
Ce ne sont pas une puissance économique.
On est d'accord.
C'est une puissance diplomatique.
Ouais.
Inévident. Ça n'est pas une puissance financière.
Oui.
Les Chinois sont une puissance économique, la première même.
Alibaba.
Première puissance économique mondiale.
Ça n'est voleurs ou pas?
Pardon?
Il y a des 40 voleurs ou pas?
Ça n'est pas une puissance. Dans le pays du ça n'est pas une puissance financière.
Oui.
Ça n'est encore pas une puissance diplomatique.
Mmh.
Et c'est en train de devenir, ça va le devenir une puissance militaire. Pourquoi? Parce que.
À l'échelle asiatique. Hein.
De quoi?
La Chine.
Sur quoi, sur quoi?
Militaire.
Ouais. Et encore, je suis nuancé là-dessus. Ah, je suis beaucoup. C'est plus nuancé. Il faut savoir une chose.
Beaucoup, Farid Tabsamane.
Mais oui, parce que la réalité est beaucoup plus subtile.
Non, mais c'est jamais noir ou rouge.
Exactement.
Bien sûr.
Mais l'Amérique.
Les Américains, pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Bien sûr que ça n'existe, ça sera pas éternellement le cas. Mais pour l'instant, ils ont la complémentarité de
l'ensemble de ces éléments. Alors, qu'ils l'ont eu pour moi de 45 jusqu'à la chute du mur de Berlin.
89.
Non, ils l'ont encore.
Non, attendez. À 1000%.
Oui.
Ils l'ont en dégradé petit à petit.
Bien sûr.
Depuis 89,
ça c'est
ce jour.
Ça c'est complètement.
Et je peux dire ici que cinéma ou pas cinéma, scénario ou pas scénario, les missiles iraniens constituent un tournant dans cette puissance que personne n'a osé toucher, même pas avec une pierre, depuis Pearl Harbor. Donc il faut toujours regarder sur le.
Il y a de la symbolique. Il y a de la symbolique.
Par rapport aux frappes.
Par rapport à la pub.
En Irak.
Par rapport à la pub.
À la pub.
Oui. Eh ouais, cher Audrey. Et voilà. On continue d'en parler. Et on va parler par contre de ce qui est l'actualité du jour, l'avion.
Et puis la deuxième actualité, les Tunisiens qui vont avoir ce soir un gouvernement ou pas.
Oui.
Vote de confiance ou pas?
Non, mais je reviendrai sur mon idée.
Oui, oui, bien sûr. Oui. On va parler de l'avion. Parce que Trudeau, ça y est, c'est l'inspecteur Colombo du Canada, l'inspecteur du monde. Il affirme avoir les preuves
que
le missile iranien aurait touché, alors peut-être par erreur, dit-il, l'avion.
Et il rajoute, mais accidentellement.
Oui, voilà.
Donc, ça ne veut rien dire.
Les Iraniens ont totalement démenti. Hein. À tout de suite.
Ouais.
Le LGF, le grand forum, c'est formidable, on est en direct, messieurs, dames, c'est vendredi, nous sommes le 10 janvier avec Audrey Pronosti, avec Farid Tabsamani, avec Tarek Mami et ça débat même en antenne, c'est formidable, on parle de l'Iran, évidemment. Moi j'ai une question toute simple, avant qu'on parle de l'avion et des nouvelles accusations de Justin Trudeau, hein, puisque tout est parti de lui vis-à-vis de l'avion de Ukraine Airlines, Farid Tabsamani. La suite maintenant, parce qu'on a pu connaître ce qui s'est passé cette semaine, ces échanges, la mort du général Soleimani, toutes les conséquences derrière, l'assassinat, oui, vous avez raison, l'assassinat odieux même de Soleimani. Farid, comment tu vois la suite maintenant Parce qu'on a. Il n'y
avait pas Audrey qui voulait rebondir sur ce point? Si elle n'a pas oublié.
Non, c'était pas par rapport au Boeing 737, pas du tout. Mais bon, là, c'est hors contexte. Alors, non, je voulais juste préciser qu'effectivement.
Comment tu vois la suite?
Non, c'était pas par rapport à la suite. Non, je voulais juste rebondir sur le côté cinéma de la situation par rapport aux frappes des bases en Irak, dans le sens où, voilà, ils étaient prévenus. Et puis, moi, j'ai entendu dire, en tout cas, qu'on parlait du fait que c'était des missiles qui étaient défectueux. Donc, ça présentait aucune menace réelle.
Ça, je sais pas. Défectueux, je sais pas.
Attention à ne pas tomber dans la. Parce que là, je trouve, en vous écoutant, hein, parce que moi, j'ai ce privilège de pouvoir avoir plusieurs lectures.
Mais il faut prendre de la distance.
Et on va côté américain, côté iranien, vous avez de la propagande des deux côtés.
Bien sûr.
Alors, attention,
c'est
pas tomber dans
une bataille de communication.
Voilà. Bah, évidemment.
Mais Christophe, il faut être au milieu.
Gaddafi est mort. Par la télévision Al Jazeera, qui a diffusé des images comme quoi Tripoli est tombé, ce qui fait que tous les autres soldats qui regardaient cette télévision ont jeté les armes, se sont cassés de la ville de Tripoli avant même qu'elle tombe.
Non mais c'est d'abord une bataille de communication, faut pas se mentir.
Mais après, d'intimidation.
Il faut être objectif. Et en géopolitique, il y a les fantasmes. Et la réalité.
Ah mais c'est clair qu'il faut arrêter c'est de penser tout. Qu'il y a un méchant et un gentil. Là, c'est...
Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de comparaison entre les deux puissances, parce que je pense que l'Iran est une puissance, une grande civilisation historique. L'Iran a des difficultés, l'Iran a des intérêts. Les Américains étaient bien contents d'avoir les Iraniens en Syrie pour pouvoir faire le ménage, il ne faut pas se le mentir. Parfois l'Iran, c'est pas forcément dit parce que ça n'a aucun intérêt pour sa population, parce que la propagande interne doit dire que les Américains c'est le grand Satan, mais parfois ils sont alliés des Américains sur certaines choses.
En Afghanistan et en Irak.
Et en Syrie.
Et en Irak au début.
Exactement. Que les Iraniens sont également alliés des Américains pour les...
C'est toute l'histoire de la géopolitique.
Mais bien sûr, parce que à écouter certains, donc Christophe parlait de lecture, tu sais, la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, où certains parlaient de Troisième Guerre mondiale, quasiment, déclencher, etc. Bon, et moi, j'ai sur le ton de la boutade, naturellement, je respecte les gens qui pensent n'importe quoi, naturellement, mais ce que je veux dire,
qui pensent pas comme toi, on va dire.
Non, qui pensent d'abord n'importe quoi. Non, mais ça, je respecte beaucoup les gens qui pensent pas comme moi, et je les invite à ne pas penser comme moi. Franchement, au plus profond de moi-même, j'espère toujours avoir tort. La difficulté, c'est que, malheureusement, sur ces sujets-là, c'est beaucoup plus nuancé qu'on le croit. C'est tout simplement ça. Maintenant, tu m'as posé la question, Christophe, la suite, je pense qu'il va y avoir des intimidations. Les Iraniens vont frapper. Là où on les attend plutôt. Alors, c'est plus des attentats comme dans les années. Là, on ne les attend pas, pardon, effectivement.
Oui. Ouais, je pense aussi.
Vous savez, ils ont attaqué notamment en Arabie Saoudite des zones pétrolières. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils ont attaqué
par Yémen.
Voilà. Bon, bah. C'est ce genre de type d'attaque qui ont un impact financier et économique sur les alliés des États-Unis, jamais directement les États-Unis. Ils vont essayer peut-être. Vous savez, c'est compliqué d'attaquer des Américains sur la planète. Hein. Pour celles et ceux qui voyagent un peu, le passeport américain, en fait, il est très surveillé. C'est-à-dire que les Américains ont la capacité d'aller chercher n'importe qui de leurs ressortissants, n'importe où sur la planète, même lorsque vous pouvez être n'importe qui aux États-Unis. Ce qui n'est pas la puissance de n'importe quel autre pays, y compris de la France. Donc c'est pour vous dire que ça va être compliqué.
La France elle lâche son Carlos Ghosn qu'elle a utilisé pendant des années.
Oui, qu'elle considère pas forcément comme un Français d'ailleurs.
Oui. C'est un arabe français quoi.
Oui, mais tu as raison, Farid. C'est vrai que le passeport américain, ne serait-ce que pour aller aux États-Unis, faut voir le questionnaire qu'on te demande de remplir quoi. Il te demande tout, même tes mots de passe et tout le bazar. Hein.
Ouais, enfin, il y a d'autres pays qui sont aussi durs que ça. Israël, l'Inde, ouais, Australie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Iran va essayer de répondre, que Trump va s'en servir continuellement
pour sa
campagne électorale. Tu l'as parfaitement dit. Avec le risque que ça puisse se retourner, parce qu'en vérité, les Iraniens vont faire quoi? Ils vont monter la puissance petit à petit. Ils vont essayer d'intimider. Et sauf que cette intimidation, à l'heure où on parle, en tout cas, on ne sait absolument pas si elle va servir dans un sens ou dans un autre. Soit elle sert, ce qui à mon avis sera le cas, la réélection de Trump, soit elle va aller trop loin et dans ces cas-là, elle va desservir la réélection de Trump.
Ce que vous n'aviez pas dit la semaine dernière, où vous étiez beaucoup plus ferme, où vous disiez...
J'ai donné les deux hypothèses, pour moi.
La semaine dernière, non. C'était, il a fait ça... Il a gagné l'élection.
Mais pour moi, oui. Okay. Pour moi, il a gagné l'élection.
Alors, tu ne crois absolument pas, toi, que les tirs qui ont atteint les bases en Irak par l'Iran n'ont pas fait de victimes, selon toi ? Parce qu'on voit très très mal Donald Trump pouvoir accepter, pouvoir dire devant les Américains qu'il y a eu des victimes suite à une de ses décisions. T'imagines les répercussions ? Il aurait perdu l'élection, là.
Par exemple, tu as complètement raison.
De toute façon, si c'était le cas, il serait obligé de riposter.
Alors, de deux choses.
Non, mais la propagande, ils peuvent faire quelque chose qu'ils maîtrisent très bien, c'est-à-dire le mensonge.
Les morts, il y en a eu, on ne sait pas combien, 1, 2, 10. Les blessés, il y en a eu beaucoup. Mais sur les terrains et par la discipline.
Sont-ils américains ?
Non, mais en tout cas, je ne sais pas s'ils sont.
Ah, mais
porteurs,
ça, c'est une bonne question.
Alors, je vais répondre à la bonne question.
Oui.
Les Américains, on voit des gens qui ne sont pas américains sur le théâtre de combat pour se battre. Okay. Attendez, s'il meurt,
c'est un peu contradictoire.
Non, mais c'est pas contradictoire. Vous avez des contrats.
On dit qu'il faut qu'il quitte le pays. Ça suppose que les Américains sont présents.
Non, les Américains sont présents.
Les citoyens américains.
Oui, bien sûr. Mais une grande partie des gens qui se battent sous le drapeau américain
ne sont pas forcément américains,
porteurs de la nationalité au moment où ils se battent.
D'accord, pas de souci.
Ils l'obtiennent après coup, s'ils sont blessés, s'ils sont morts ou s'ils ont réussi leur mandat.
Juste une chose, Christophe.
Dans ce cas, est-ce qu'on a tué des Américains ou pas ? Exactement. La réponse juridique, non. Oui, la réponse de fait.
L'important, c'est de savoir si Trump considère que c'est des Américains ou pas après.
Non, parce que les Américains, ils utilisent les mercenaires.
Il
peut dire qu'il n'y a pas eu d'Américains morts.
Cher Mamie a raison. En réalité, c'est aussi une manière de détourner la chose, mais pour moi, l'impact de la propagande, que ce soit la propagande américaine et la propagande iranienne, n'est pas la même.
Oui.
Pourquoi ? Parce que les Iraniens font de la propagande, naturellement, comme les Américains, ils peuvent mentir dans leur propagande. Oui. C'est-à-dire que si on découvre, comme ça sera le cas notamment sur les 80 morts qu'ils ont soi-disant annoncés, que finalement c'est pas 80, mais c'est que quelques-uns, etc., il n'y aura pas d'impact forcément sur leur population interne.
Ils disent, on a tué 80 personnes.
Ils ont l'habitude de mentir.
L'impact serait chez Trump, Farid, c'est ce que
par
je
contre,
non,
t'expliquer.
Trump, ils disent qu'ils sont pas américains.
Par contre.
Il dit ça, pourquoi ? Parce que lui, comme il s'est engagé sur le fait que voilà, il voulait pas faire la guerre.
Laissez-moi juste terminer là-dessus.
Il voulait pas faire la guerre, mais s'il voulait vraiment faire la guerre, c'est des Américains.
Juste une chose.
On y va, voilà.
Trump dit il n'y a pas de mort américain.
Voilà.
Au-delà de la subtilité.
Tout va bien, quoi.
Mais si dans sa propagande, on s'aperçoit à un moment donné, dans les jours qui viennent, que finalement, il y a au moins un mort américain avec passeport américain.
Là, c'est chaud.
L'impact dans la société américaine ne sera pas le même que dans la société iranienne.
Évidemment.
C'est ça le problème.
Eh ben, oui, c'est là où je voulais te faire venir, Farid.
Bien sûr.
Parce que il s'agit d'une décision que lui seul a prise.
Et c'est pour ça, Christophe, qu'à mon avis, mais ça n'engage que moi, je suis pas dans le secret des dieux, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de mort américain sur ces
passeports américains.
Exactement. Et c'est pour ça que Trump se permet d'aller jusque-là, parce qu'il sait qu'il n'y a pas le risque.
Il y a un truc qui s'appelle le mensonge. Vous vous rappelez les preuves des armes chimiques en Irak.
Ce mort-là sera déclaré non pas mort dans la base, mais mort parce que vous savez, les Américains en Afghanistan, quand il y a des opérations talibans, ils nous sortent qu'il y a eu 20 soldats américains morts dans un tank qui s'est renversé. Et en fait, les militaires savent qu'ils sont pas morts dans le tank, ou qu'on les a pas tirés, je sais pas, dans la base, mais que, on peut pas dire, il y a une attaque des talibans qui a réussi.
Christophe, je voulais juste, rebondir.
Et puis, il y a pas d'autopsie dans l'armée américaine. Il est mort, il est mort.
D'accord. Non, je voulais
et
juste.
Et le patriotisme veut que les parents ne demandent pas l'autopsie.
Audrey.
Sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que Trump avait pris sa décision seul, certes, il a pas tenu compte du Congrès. On sait qu'il y a cette situation en ce moment qui est pas très favorable pour lui, mais il a quand même été conseillé par son secrétaire d'État à la Défense, Mike Pompeo.
C'est lui qui décide, en même temps,
là je fais faire l'avocat du diable, ça reste quand même le président, et en même temps, il est dans son droit de réagir comme ça.
Oui.
Depuis les attentats du 11 septembre, le Congrès a perdu de son pouvoir.
Le président américain a tous les pouvoirs, sauf d'engager ce qu'on peut considérer comme un engagement de guerre, sans l'aval du Congrès.
Oui, mais
la discussion, est-ce que tu es Soleimani? Non, toujours. Mais la discussion, est-ce que tu es Soleimani, est un acte de guerre ou pas?
Ah ben ça c'est encore une autre question.
Non mais c'est pour ça qu'il peut se permettre de tout faire en disant avoir tué Soleimani,
de pas truc. En tout cas, par rapport à la situation depuis le 11 septembre, le Congrès a quand même perdu de son pouvoir.
La guerre d'Irak a été la guerre d'Irak
je parle du pouvoir du Congrès.
Guerre d'Irak est autorisée par le Congrès américain, ne dites pas n'importe quoi Audrey.
C'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai juste dit que le c'est pas ce que j'ai dit.
Non mais s'il avait voté non. Comme dans d'autres pays, comme en Angleterre. Par exemple, en Angleterre, le Parlement a voté contre.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Bon, d'accord, allez-y.
Non, mais je disais juste qu'en fait, Trump, et ben, là, c'est, je fais l'avocat du diable, encore une fois. Trump, et ben, il a pris cette décision.
Il n'a pas le pouvoir juridictionnel. Et, oui, il l'a fait. Mais il n'a pas le droit. Oui, non, il n'a pas le droit.
Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus Audrey, et monsieur, cher mamie et Christophe, c'est quoi? C'est que Trump est président des États-Unis.
Oui.
Vous le savez.
Oui, ça nous a pas échappé.
Le mandat est relativement court, même que lorsqu'il
4 ans.
Et même lorsqu'il est réélu, finalement, ça fera pas beaucoup, finalement.
C'est excellent.
Dans l'histoire.
Pour la démocratie, c'est excellent.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, les États-Unis, comme des pays comme la France d'ailleurs, sont des structures étatiques. Ouais. Lourdes. C'est-à-dire, lorsque Trump fait une mariole sur Twitter, ou devant les journalistes, en réalité, c'est beaucoup plus sérieux derrière. Et quand il fait,
mais bien sûr,
c'est beaucoup plus sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense qu'en fait c'est juste un guignol qui fait le foufoufou, en réalité on se trompe complètement. Au-delà du fait que, un, pour moi ça n'est pas un guignol, deux, que derrière la structure des États-Unis d'Amérique en fait est beaucoup plus puissante pour pouvoir ce type d'engagement, comme pour la France d'ailleurs.
Bon, c'est peut-être pas un guignol, comme tu dis, mais je pense qu'il est pas fait pour le job. Le mec, c'est ça reste quand même un businessman, mais pour.
Alors, je suis absolument...
Mais il a pas le costume, je pense.
Audrey, est-ce que tu connais les indicateurs américains à l'heure où on parle?
Moi, je te parle de Trump là.
Qui sont construits sur ceux de Clinton et d'Obama en termes d'économie. Alors là, vous voulez pas qu'on parle de chiffres économiques, on parle.
C'est un homme d'affaires.
Moi, j'aimerais bien qu'on accueille Sofiane Lagdari, les amis.
Est-ce que c'est pas la construction, le suivi avec des initiatives personnelles de Trump sur ce qu'a construit déjà Obama qui a laissé une excellente économie florissante? Sofiane.
Bonjour.
Bonjour Sofiane, comment ça va?
Bonjour Tarek, bonjour Farid, bonjour Audrey.
Salam, bonjour Sofiane.
Ouais, moi j'ai pris l'émission de cours, je suis vraiment désolé, j'ai entendu un peu l'intervention de Farid. Après, moi, ma lecture de ce qui vient de se passer, c'est que on parle de morts. Combien de morts? Est-ce qu'il y a eu des morts? Je pense que les Iraniens, quand vous entendez, vous avez écouté le discours des Iraniens ou de Hassan Nasrallah avant la frappe iranienne, ils n'ont pas parlé de nombre de morts. Dans une des expressions de Hassan Nasrallah, il a dit 1 000 ou 2 000 ou 10 000 soldats n'y quitteront pas Qassem Soleimani. La réponse à la mort de Qassem Soleimani, c'est le départ des armées américaines de la région. C'est ça le résultat. Après, maintenant, on aurait dit à 10 morts ou 20 morts ou 100 morts, rien ne calmera rien ne calmera en vérité la demande du peuple iranien qu'on a vu avec des millions de gens ou bien de ceux qu'on appelle l'axe de la résistance. Pour moi, la frappe iranienne est une réussite totale. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, où un État qui frappe une base américaine et qui le déclare haut et fort. Si vous regardez le tweet d'avant de Donald Trump, avant ses représailles, il a parlé, s'il y avait des représailles de l'Iran, je bombarderais ses comptes de site. Il n'a pas parlé de la mort de soldats américains. Il a parlé de représailles. Et là, vous avez l'Iran qui a envoyé 16 missiles, ou bien 16, je sais pas ce que c'est, des cruises, je me rappelle pas exactement les missiles qui ont été envoyés, balistiques, mais il parle surtout comme quoi qu'ils ont frappé la plus grande base américaine en Irak, où il y a les drones ou ceux qui ont frappé.
Important, c'est la base américaine qui a été tapée parce que Farid nous disait que c'était pas une base américaine, Farid, c'est ce que tu nous as dit.
Une base américaine où il y a la présence d'autres soldats canadiens.
Il y a deux bases.
Non, c'est pas des bases américaines.
Non, c'est deux bases.
C'est Ain el-Assad.
Oui, non, c'est des bases de soldats. C'est des bases à la présence des soldats américains.
Merci.
Une à Anbar, l'autre à Erbil.
D'accord.
Et dont, en gros, quelques jours avant, les soldats irakiens ont été retirés parce que là, ça chauffait déjà depuis la mort des 30.
Donc, comparativement à ce que dit,
excusez-moi,
Sofiane,
je termine là, et dans laquelle il y avait des soldats américains, et il y avait surtout beaucoup d'avions américains. Et si d'il y a, c'est la destruction de cette partie de la flotte.
J'ai dit en début d'émission qu'il ne s'agissait pas de base US en Irak, mais de base irakienne avec des présences américaines. Et Sofiane nous dit, si je dis pas de bêtises, que pour Sofiane, il s'agit purement et simplement de bases américaines qui ont été touchées.
Non, non.
Ah, pardon.
Il y a une base, c'est à partir de cette base où les avions qui ont frappé Qassem Soleimani ont décollé. C'est Ain al-Assad. C'est une base, on peut dire irakienne ou on peut dire une présence américaine.
Non, les il existe d'autres bases en Irak qui sont 100% américaines.
Pardon?
Il existe d'autres bases en Irak qui sont 100% américaines.
Et c'est l'ambassade américaine.
Non, il y a d'autres bases également.
C'est l'ambassade,
notamment.
Cette base, après on parle du détail, je sais pas exactement après. Alors du coup, ils ont bombardé une base irakienne selon toi. Ils se sont trompés.
Pardon, excusez-moi.
Farid, t'as posé une question.
Pardon, Sofiane, j'ai pas entendu.
Les Iraniens, ils ont frappé cette base, ils ont frappé une base irakienne, du coup.
Tout à fait.
Et l'Anbar, c'était quoi comme base?
J'ai pas entendu.
L'Anbar, ils ont frappé à Ain al-Assad, ils ont frappé à l'Anbar.
Oui.
Erbil, c'est les Kurdes.
Ergus,
c'est une base kurde ou une base américaine aussi, Erbil?
En fait, il faut distinguer deux choses. Il y a les bases sur les territoires irakiens, y compris kurdes, base 100% US. Qui sont ce qu'on appelle, légitimement, peut-être pas le bon terme, mais qui sont une base américaine où il existe soit des Irakiens, soit des alliés des États-Unis sur leur sur ces bases-là. Et ensuite, il existe des bases irakiennes, officiellement irakiennes, où les Américains ont accès, où ils travaillent, où même ils sont même très nombreux, tu vois. C'est deux choses différentes. Et les Iraniens, volontairement, je discute pas avec les Iraniens, mais volontairement, ont choisi d'attaquer ces deux bases, pour, à mon avis, une raison purement stratégique, de ne pas attaquer, de ne pas faire de victimes américaines, tout simplement.
Audrey, tu avais une question.
Oui, j'avais juste une question américaines. Pour toi,
je rappelle que vous êtes sur France Maghreb 2.
Oh, absolument. Oui. Audrey, question pour Sofiane.
Non, c'est juste une petite question, parce que moi, j'ai cru quand même comprendre que tout à l'heure, tu disais que c'était la première fois que l'Iran frappait des bases américaines, mais...
Que les Américains reçoivent des missiles. C'est la première fois depuis grave.
Et là, j'ai un doute, si tu peux me le confirmer, ils n'ont pas déjà fait ça sous Obama?
Qui?
Non, pas du tout.
Non, il l'avait pas fait.
Non, personne. D'accord. Depuis 45,
déjà le fait de
depuis 1945, c'est la première fois qu'un pays bombarde une caserne, pour faire simple, américaine, et dit c'est moi qui ai bombardé. Ça s'est beaucoup produit.
Ah, le fait qu'il le revendique.
Oui, qu'il le fasse et qu'il le revendique. Okay. Par contre, il y a eu en Somalie des dizaines d'attaques contre les sites, mais personne ne revendique et les Américains disent ça doit être les Iraniens, mais on n'a pas la preuve.
Exactement. Le mode opérateur iranien, traditionnellement, n'est jamais frontal.
Voilà.
Oui.
En fait, ils n'assument jamais l'affrontement.
Donc cette fois-ci, ils l'ont bien assumé.
Exactement. C'est ce que j'ai dit en début d'émission.
D'accord, okay.
C'est que c'est la première fois que ce sont les gardiens de la révolution qui répondent.
Les CGRI, là.
Exactement. C'est la toute première fois et que c'est pas la réelle réponse, à mon avis.
Et en même temps, Farid, il ne faut pas oublier que les Iraniens n'ont pas été attaqués au sein de l'Iran, ils ont été attaqués soit en Irak, on a parlé d'une confrontation entre l'Iran et les États-Unis par proxy, par groupe interposé, que ce soit hier, par exemple, l'intervention d'un général iranien, vous avez des drapeaux, plusieurs drapeaux, le drapeau du Hezbollah, du Hezb Shiabi, etc., ou bien des milices chiites qui sont en Afghanistan, au Pakistan, ça veut dire que depuis un bon bout de temps, la guerre se faisait par proxy. C'est pour la première fois où on a une confrontation direct entre Américains et Iraniens. Vous avez la mort d'un général haut gradé.
Sur territoire étranger.
Voilà, sur territoire étranger. Ils l'ont tué en Irak, ils l'ont pas tué en Iran.
Oui.
Donc, du coup, la réponse, elle était en Irak. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que l'on a le président des États-Unis qui a dit en cas de représailles iraniennes, je bombarderai ces
52 sites.
Et là, il a
fait marche arrière.
Est-ce qu'on peut parler des 52 sites?
Oui, moi aussi.
Parce que la propagande dit 52 sites, ouais. Les sites culturels,
c'est,
etc.
C'est dans 108.
Oui, mais pourquoi 52?
Pourquoi 52? Parce que
52,
c'est en rapport par rapport aux soldats qui ont été pris en otage
dans l'ambassade. C'est pas des soldats.
C'est les fonctionnaires.
Oui, américain.
Mais il aurait aussi pu dire les 3222
exactement.
Qui ont été dans la tour. Donc on prend les symboles qu'on peut.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il a un peu de culture, ce président.
Mais s'attaquer par contre à des sites culturels, ça il a pas le droit de le faire. Ça c'est.
Il a fait marche arrière. Mais non, mais c'est symbolique de.
C'est symbolique.
Les 52, c'est la symbolique.
Sofiane, comment tu vois la suite pour finir?
Il a pas trouvé 52 sites militaires.
Exactement.
La suite. Il faut compléter par la mer et la belle mer.
Sofiane Lagdari, comment tu vois la suite? Est-ce que ça correspond avec ce qu'a dit?
Il voulait donner gifle à sa femme, il a pas pu.
Moi la suite avant le 3 novembre 2020. les États-Unis devront quitter le Moyen-Orient. C'est un truc bizarre.
Attends. Vas-y, les gars, vous êtes en radio là.
Novembre 2020, Donald Trump essayera par tous les moyens. Il a été élu pour rapatrier des soldats.
Non mais Sofiane dit un truc très intéressant. Il a été élu pour justement rapatrier tous les soldats. C'est ce qu'il a voulu faire dès le début.
Non, ça c'était sa propagande électorale.
Farid. Moi, il a été élu. Tout ce qu'il a fait comme propagande, il a réussi. Pour le moment, il a fait ce qu'il avait promis ses électeurs.
C'est vrai.
Aujourd'hui, Donald Trump, on sait pertinemment qu'un État profond américain ne voulait pas qu'il fasse ce qu'il voulait faire. Il y a eu des blocus, on a vu l'impeachment, on a vu au niveau des congrès, jamais de l'histoire des États-Unis peut-être, on a vu une telle opposition à un programme politique d'un président. Je parle pas d'autres, je pense qu'il y a un président américain dans le passé qui a eu un impeachment contre lui, mais ce président Donald Trump a été élu sur un programme. Aujourd'hui, il va aller vers ses électeurs en novembre 2020 pour leur expliquer ce qu'il a accompli, ce qu'il n'a pas accompli.
Oui.
Donc, attends, Lagdar, voilà. Lagdar, dis-moi si je me trompe. Sofiane, pardon, excuse-moi.
Lagdar, c'est son nom.
Voilà, Slahli, désolé. Toutes mes excuses. Sofiane, t'as dit, il va essayer de quitter le Moyen-Orient avant le 3 novembre ou il va quitter le Moyen-Orient avant le 3 novembre?
Lui, ça, tout dépendra de. Il y a un conflit à l'intérieur des États-Unis. Il y a le Pentagone et l'État profond américain ne veut pas sortir les soldats tant qu'on n'a pas assuré la sécurité de l'État d'Israël, de la seconde deuxième État.
Impossible des États-Unis dans la région.
Aujourd'hui. Il a essayé par ce coup à pousser les Iraniens de venir négocier un nouvel accord nucléaire comme grand titre, mais en vérité c'est la sécurisation de l'État d'Israël, chose qui ne l'aura pas.
Il n'y a pas que ça sur la région.
Je termine juste mon raisonnement, après je te laisse arriver de terminer.
Pardon.
Juste aujourd'hui, lui, il va sortir. Il avait comme projet de sortir du Moyen-Orient. Mais il devait assurer la sécurisation de l'État d'Israël. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun
intérêt.
Dans son discours, si tu l'entends, il dit que les Américains n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Ils sont autonomes au pétrole de schiste.
Est-ce que je peux te répondre? Est-ce qu'on peut parier un resto déjà?
Pardon?
Est-ce qu'on peut parier un resto?
Ah oui, avec
moi je rentre dans le pari pour resto.
Moi aussi je rentre dans le pari.
Je rentre dans le pari.
Sofiane, l'intérêt des bases américaines n'est pas qu'Israël, premièrement. Pour une raison très simple. Tu as raison de dire qu'à l'heure où on parle, selon le cours du baril, les Américains n'ont pas forcément besoin du brut du Moyen-Orient. Ça, c'est une évidence. Ouais. Le problème, c'est que les Américains sont les gendarmes du monde. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le rôle qu'ils ont volontairement.
Ils n'ont pas forcément envie de l'avoir.
Je suis pas d'accord là-dessus. Ils sont obligés de l'avoir. Il y a un allié.
Ils ont dégagé les Français et les Anglais pour prendre la place.
Moi, je parle des Américains.
Oui, il y a un allié des États-Unis qui s'appelle la Chine, qui, pour sa propre économie, est obligée de pomper, d'avoir du pétrole. Beaucoup de brut. Elle n'a pas de base en Moyen-Orient. Et elle n'aura pas, d'ici le 3 novembre, suffisamment de base au Moyen-Orient pour remplacer les Américains. Les Chinois paieront tout ce qu'il faudra pour que les Américains, au minimum, si Trump est assez fou pour retirer les bases américaines, ce que je ne crois pas, parce que même logistiquement c'est quasiment impossible, même en annonce j'y crois pas plus que ça. La réalité c'est qu'en
fait, quoi le pari là, parce que j'ai un peu
le pari, si je dis pas de bêtises, Sofiane nous a dit qu'il va essayer de retirer des bases américaines du Moyen-Orient. Il a pas dit d'Irak, il a dit du Moyen-Orient.
Et moi j'ai dit non, de Syrie et d'Irak. Pas du Koweït, pas des Émirats, pas d'Arabie, pour être clair.
En Irak et en Syrie.
Moi je suis d'accord avec Cheikh Mami.
Comment ? En Irak et en Syrie, c'est fait automatiquement. Automatiquement maintenant, moi je vous dis tout de suite.
Aujourd'hui, vendredi 10.
Ils ne resteront pas en Irak. Mais moi, je parle de Trump en tant que président des États-Unis.
10 ans.
Lui, dans son programme isolationniste.
Il y a des mots que j'aime pas utiliser, mais ils vont se retirer de ce qu'on appelle l'arc chiite. Irak, Syrie, un peu Afghanistan. Et forcément, Iran, où ils n'étaient pas, mais ils vont pas se retirer de l'axe sunnite, c'est-à-dire Émirats,
merci,
Émirats, Koweït,
merci, Sofiane,
Arabie Saoudite, pour d'autres raisons stratégiques.
Bon, je choisis le resto, Sofiane.
Bon, allez, salut, les gars. Salut, Sofiane.
Moi, je fais le pari qui se retire de l'axe chiite.
Moi, je fais le pari qui se barre, moi.
Et il se barre de l'axe, non, pas
tout de suite.
Pas de Moyen-Orient.
Le grand forum, mes amis, on est là. Oui, avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani, avec Audrey Pronosti. On a pris beaucoup de retard sur le timing que j'avais prévu, mais en même temps, quand vous êtes là, forcément, il y a du retard. Ça s'éternise évidemment beaucoup. Je voulais qu'on parle de l'avion quand même. Et c'est une accusation qui fait l'effet d'une bombe, si on peut dire, une accusation gravissime.
Alors, c'est quand même une demi-accusation.
Attendez. On va y venir, mais cette accusation, elle a été quand même formulée par le Canada et son Premier ministre, confirmée par le Royaume-Uni et les États-Unis.
Oui.
Une certitude pour ces pays. Et là, c'est pour ça que je dis quand même que c'est une accusation grave.
Oui.
Parce qu'il parle d'une certitude.
Oui.
C'est un missile sol-air qui est à l'origine de la catastrophe aérienne de mercredi en Iran.
Oui.
176 morts.
178.
Oui. Voilà, bon, ça...
Oui, non, mais c'est pour dire oui.
Bon.
Et vous rajoutez la chute de la phrase.
Oui.
Un missile tiré par erreur.
Oui.
Donc, ce qu'on veut prouver, c'est deux choses. Un, l'incompétence de cette armée iranienne qui dit qu'elle a balancé les vrais missiles, qu'elle a tout touché, qu'elle n'a rien perdu, tout ça. Ils mentent, c'est des incompétents. Et deux, regardez le drame moral. Je vous rappelle juste que l'avion qui est tombé en Égypte, je sais pas si les Français ou si les Russes, que l'avion de la Malaisie qui sont tombés il y a 4 ans, à ce jour, l'enquête n'a pas dit comment ça s'est passé.
Ouais.
Alors que quand c'est l'Iran, en 3 minutes, on a réglé le problème.
Mais...
Alors, attends,
dit comme ça,
j'apporte des précisions.
Oui.
Pardon, Farid. L'enquête s'annonce longue et difficile quand même.
Bien sûr.
Ce matin, le bureau d'analyse organisme français annonce l'envoi de représentants en Iran dans le cadre de cette enquête. Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont arrivés dès hier à Téhéran. Le bureau canadien de la sécurité des transports a accepté une invitation iranienne à se joindre à l'enquête. Et plus surprenant... Donc, des agences américaines de la sécurité de transport annoncent qu'elle va aussi participer. Une foule de spécialistes internationaux s'apprête donc à analyser les éléments disponibles, à commencer par les enregistreurs de vol, les boîtes noires des Boeing ukrainiens. Voilà. D'ici là, au moins deux tests sont envisageables, celle des autorités iraniennes qui écartent fermement le tir de missile. Le numéro 1 de l'aviation civile iranienne l'a redit ce matin. Et puis, il y a cet autre scénario qui prend forme depuis hier de source occidentale, celui d'un tir de défense anti-aérienne potentiellement par erreur. Rappelons que la catastrophe a eu lieu dans un moment de tension extrême quand même. Après les tirs de missiles iraniens sur des sites américains.
Et deux petites précisions techniques. Elle ressort de la bouche d'un expert suisse. Et vous savez que la Suisse, elle est l'ambassade qui représente les intérêts américains en plus. Alors, il dit deux choses. Il dit ça ne peut pas être un missile, par expertise. J'ai l'expérience avec d'autres. Et la deuxième, il dit un missile ou une bombe fait exploser l'avion en vol qui part donc en toute partie. Or là, on a vu l'avion faire demi-tour. Pour essayer de revenir. Vous pouvez prendre tous les conditionnels, mais c'est quand même la version. C'est qu'on a vu l'avion faire demi-tour.
C'est une version comme quoi le missile aurait frôlé l'avion et qu'il y aurait des impacts très tout petits sur sur l'avion.
Frôler l'avion
et qui ferait que ce serait.
Je sais pas combien de pieds.
Aurait créé une onde de choc et que c'est pour ça qu'il a quand même été touché.
En tout cas, on n'est pas des experts de l'aviation.
Exactement. Oui. Moi, je ne suis pas.
C'est ce que j'ai entendu.
Voilà,
juste deux choses. Ouais. La comparaison avec l'avion de la Malaisienne, en fait, n'a aucun rapport pour une raison très simple. C'est que la Malaisienne partait de Kuala Lumpur pour Pékin et il a explosé en pleine mer d'Aman, si je dis pas de bêtises, qui n'était pas surveillé plus que ça pour des raisons géopolitiques, alors que je peux vous dire une chose, Téhéran et toute sa région est scrutée quasiment mètre par mètre par tous les satellites. Et ce qui va se passer pour, à mon avis, parce que les Iraniens, on a parlé tout à l'heure de guerre de communication.
Oui.
Vous imaginez bien que en plein conflit officiel avec les États-Unis, ils ne vont pas avouer pour la propagande intérieure qu'ils ont fait sauter.
L'inverse est valable aussi. L'inverse est valable aussi, c'est-à-dire que il est très facile pour les Occidentaux aujourd'hui, au vu de la position iranienne, d'accuser l'Iran en disant, voyez, c'est des amateurs, ils savent même pas maîtriser leur missile.
Si on est un peu honnête, lorsque on a appris que l'avion qui a eu un incident de ce type-là. Les Occidentaux, tu parlais du Canada et des États-Unis, des
Britanniques,
n'ont pas réagi.
Mis 24 heures.
Ils n'ont pas réagi tout de suite.
Exactement.
Et tu sais ce qui s'est passé dans ces 24 heures-là?
Beaucoup.
En réalité, ils ont vérifié l'information.
Non.
Et vous savez ce qui va se passer? Et là, je vais reprendre les paris.
En 24 heures. Mais dans les 24 heures, les Canadiens commencent par retirer leurs troupes.
Si, ils sont barrés.
Ça, c'était déjà prévu. Moi, ce que je veux vous dire, après, l'avenir nous le dira. Je pense que je pense qu'on va nous apporter, à nous tous, visuellement, la preuve.
Oui.
Du fait, effectivement, ça a été fait par erreur.
Je saute dans 3 ans.
Non,
je saute exprès dans 3 ans. Oui. On amène la preuve que c'est un missile iranien, oui, par erreur. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence?
Aucune. Là, mais c'est d'ailleurs la communication américaine sur Trump est vachement véhément sur plein d'autres choses. Sur cet avion-là, ils savent pertinemment que c'est une erreur. Ouais, et donc, du coup, ils n'en jouent pas plus que ça.
Je voudrais écouter ce démenti iranien que je vous propose d'écouter. Ce qu'a dit ce matin, oui, Ali Benzadeh, oui, le président de l'organisation de l'aviation civile iranienne. Voici ce qu'il a dit.
Nous pouvons l'affirmer avec certitude. Aucun missile n'a touché cet avion. L'appareil était en feu durant un peu plus d'une minute trente avant le crash. L'endroit où il s'est écrasé montre que le pilote avait l'intention de revenir à l'aéroport. Mais il y a cette question. Pourquoi le pilote n'a pas contacté la tour de contrôle? Il peut y avoir des raisons différentes, mais la priorité d'un pilote est d'abord de sauver son avion. Si des responsables américains ont reçu des informations de la part d'organisations aux États-Unis et au Canada spécialisées dans la sécurité aérienne, ils ont le devoir d'en informer tout le monde via l'organisation international de l'aviation civile.
Voilà.
Moi, j'ai une question à te poser, Christophe, dans ces cas-là. Si ça vient d'une défaillance éventuelle de l'avion, il avait été révisé 48
mais
heures.
L'avion est neuf.
Donc, c'est ça.
Alors, c'est pas parce que l'avion est neuf.
Oui, mais 48, il n'y avait pas de souci quand ils l'ont révisé.
Non, mais. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation. L'immense majorité des accidents, malheureusement, d'aviation, en réalité, elles sont essentiellement des incidences humaines. Donc, c'est pas parce que l'avion est neuf qu'il peut pas y avoir une incidence humaine. Là, en réalité, je pense. Ce qu'on vient d'écouter, c'est ce qui est tout à fait normal. C'est de la propagande iranienne.
C'est
de la communication, pardon.
Non, je vais régler un problème avec toi, Farid.
Dis-moi.
C'est quoi? Pourquoi tu parles de propagande uniquement vis-à-vis de l'Iran?
Parce que sur cette affaire-là.
Pourquoi tu ne parles pas de propagande côté occidentaux, côté états-unien, qui sont très forts?
J'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait la propagande américaine?
Non, mais tu insistes beaucoup sur l'Iran.
Sur quoi? Là, tu me parles d'un avion qui s'est fait écraser.
Oui.
Là, à vue d'œil, c'est-à-dire que vu la communication, vu la propagande, comme tu dis, même des États-Unis, elle est très faible sur cette affaire-là.
Ils sont en train de faire dire à tout le monde que les Iraniens sont des amateurs. Elles laissent leurs délégués.
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Christophe? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va le cacher?
Non, l'Iranien dit, si vous avez ces preuves dont vous parlez tout le temps, donnez-les à la commission de l'aviation internationale pour que tout le monde lise.
C'est pour ça que quand Farid dit que les États-Unis restent quand même sur la réserve,
c'est faux.
C'est pas pour rien.
Non, mais ça veut dire que c'est une propagande fausse. Vous avez la preuve d'un assassinat. Vous parlez partout. Et le procureur vous appelle, dit, monsieur, donnez-moi la preuve pour que j'accuse le mec. Et vous dites, je veux voir.
C'est qui le procureur?
Le procureur aujourd'hui?
Non, oui, voilà.
Non, mais aujourd'hui, le procureur, c'est l'opinion publique internationale de part et d'autre.
Ah, mais pour les Américains, non.
Oui, mais ils s'en foutent, les Américains.
Exactement.
Mais pour l'opinion internationale...
Mais si on suit le raisonnement de Christophe, les Américains pourraient largement faire de la propagande en disant « Ah, ce sont les Iraniens qui l'ont fait volontairement, etc. etc. »
Oui, mais qu'ils sortent la preuve.
C'est ma théorie. Oui. C'est de dire qu'ils vont sortir,
Je ne dis pas qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait. Je dis que c'est lui qui, dès qu'ils l'ont fait, doit mettre les preuves publiquement sur la table.
Non, mais ils vont les... Je pense.
Trudeau a affirmé qu'il avait les preuves.
Ouais. Non, il a dit certaines informations.
Ouais, bah là, il a été plus non, enfin, un
en
peu
réalité,
plus...
En réalité, ils ont, je pense qu'ils ont les images, tout simplement.
Oui.
Pourquoi? Parce que au-delà de cet malheureux drame...
Non, mais c'est quelqu'un qui sait. Ce sont les Iraniens qui doivent savoir le premier.
Exactement.
Pour eux-mêmes. Est-ce que eux, ils ont tiré, ils ont 15 missiles sur l'étagère? Est-ce qu'ils ont tiré un ou pas?
Donc vu que Christophe m'accuse de d'anti...
Non, mais je t'accuse de rien du tout, alors, constate pour
me soupçonne d'anti
d'impartialité.
Non, pro-américain.
Moi je suis absolument pas pro-américain, ni
t'as le droit.
Non, mais je le suis pas.
D'accord.
Je le suis pas. J'essaie juste d'être le plus objectif du monde. L'Iran est un grand pays, une énorme civilisation bien plus grande que les États-Unis d'Amérique dans l'histoire de l'humanité. Néanmoins, il faut dire la réalité, c'est que à l'heure où on parle, tu parlais d'amateurisme.
Ouais.
Je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais.
Tu rapproches.
Complètement.
Ouais, bon.
Complètement.
Alors, je voulais qu'on passe à autre chose parce que faut qu'on avance un petit peu. Et vous parlez des milices irakiennes aussi, hein, qui protéront, qui veulent aussi venger la mort du général Soleimani.
Moi, j'adore ce genre d'expression, si vous permettez, cher Christophe. Quand c'est les Américains qui envoient des gens qui ne sont pas des soldats, on parle de mercenaires. Quand c'est les autres, c'est des milices.
Pourquoi?
Et pour
il y a une raison.
Je vous laisse faire.
Eh oui. Mercenaires.
Je termine mon info ou pas?
Pourtant, il y en avait beaucoup en Irak.
Mais il y en a pas qu'en Irak d'ailleurs.
Les milices pro-iraniennes en Irak.
J'adore.
8 combattants, sachez-le, de ces milices pro-Iran ont été tués.
Mais il y a une raison.
En Syrie, près de la frontière avec l'Irak, par des frappes aériennes non identifiées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et la coalition internationale dément toute implication. Quelques sources indiquent que ça viendrait d'Israël.
Israël.
Voilà.
Ah oui, c'est, oui. Non, mais ah moi, oui, c'est facile. Ça marche toujours, ça aussi.
Non, mais ça marche pas. C'est... Attendez. Ouais, voilà. Beaucoup de sources concordantes indiqueraient que ce serait Israël.
Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr.
Bon.
On ne prête qu'aux riches.
Exactement.
Moi, ce qui m'étonne.
Est-ce qu'on peut faire la différence entre milices et mercenaires?
On y vient. Ah, moi, ce que j'adore, c'est que quand c'est des missiles anti-arabes, anti-musulmans, il y a toujours des morts dans la dépêche. Et quand c'est des missiles contre les Occidentaux ou les Israéliens, il n'y a jamais de mort dans les dépêches.
Ah oui, oui.
Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire aussi. On est bicéphaux, on est schizophrène. Alors pour les milices et pour les mercenaires, moi j'ai toujours adoré deux expressions.
Ouais.
Quand les musulmans se battaient contre les Américains en Afghanistan, c'était des moujahidines, c'est-à-dire l'expression positive du jihad, moujahidine, en anglais, en arabe. Et en français.
Est-ce que ce sont des milices ou pas?
Non, mais sans milices, par ailleurs. Non, mais sur la détermination.
Pas mercenaires.
Non, ils ont.
Pourquoi?
Non, mais je reste moujahidine.
Oui.
Mais dès qu'ils sont mis à se battre contre les Occidentaux, ils deviennent des djihadistes. Donc.
C'est pas ma question, ça, cher mamie.
Non, mais c'est pour ça que je viens à milice après. Donc, on commence par.
Mais non, il y a une raison très simple.
Allez-y.
C'est que mercenaire, c'est quelqu'un qui va faire la guerre pour l'argent.
Voilà, et l'autre, c'est pour une guerre.
Et pour une idéologie.
Voilà.
Les milices, c'est d'abord pour une idéologie.
Alors, les milices d'aujourd'hui.
Et sont payés.
Alors qu'ils sont les deux,
bon, non, ils peuvent être les deux, sauf que l'intérêt premier n'est pas économique, il est idéologique.
Ah oui?
Et c'est pour ça.
Alors, je peux vous dire, moi, que les milices qui se battent en Syrie pendant toute la guerre. Les djihadistes, bah c'est des milices, c'est pas des.
Allô, mercenaires.
C'est des mercenaires, c'est pas des milices. Les seuls miliciens.
J'ai pas utilisé le terme de djihadiste, premièrement.
Non, mais.
La différence. Parce que les mercenaires, pour en connaître un certain nombre.
Pour les auditeurs de France Maghreb 2. Pour les auditeurs de France Maghreb 2, pourquoi, quand c'est contre les Russes, pour les Américains, c'est moujahidine, terme positif.
Allô.
Et dès que c'est contre les Occidentaux, c'est djihadiste, terme négatif. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la propagande. Elle a ses codes, elle a ses mots, elle a sa pénétration. Aujourd'hui, vous dites à n'importe quel Algérien, à n'importe quel Français.
Mais oui, bien sûr.
C'est quoi un Moudjahed?
Il ne sait pas.
Il l'a su pendant
la. Il l'a su
pendant 10 ans.
Ouais.
Quand il y avait la guerre.
Oh, je suis pas sûr.
Vous voyez le texte de BHL, de Glucksmann.
Oui, BHL, c'est pas la France.
Ah non, heureusement, merci. Heureusement, tiens, vous faites une belle transition parce qu'on va parler de la Libye dans un instant.
Les Français, j'en veux.
Mais juste avant, on va accueillir Monji de Marseille parce qu'il y a un événement du côté de Marseille, un événement à propos des Ouïghours. Salut mon Monji.
Salut Christophe.
Comment ça va?
Salut Farid, j'aime bien Cher Mami.
Ça, c'est le monopole de Farid. Il est le seul à avoir le droit de dire ça.
Voilà, c'est ça.
C'est quelqu'un d'autre.
Et Audrey, elle sent pas bon, hein, c'est ça, Monji.
Non, mais à chaque fois, il oublie.
Audrey, elle sent pas bon.
À chaque fois, il m'oublie, Monji.
Il faut qu'il la voie à Marseille pour qu'il s'en rappelle.
J'ai pas de chance.
Vous savez, moi, j'ai deux cases dans les neurones. Je rappelle toujours deux noms.
Ouais.
Mais non.
Non, il y a des milliards de cases à mon avis.
Bon, Monji, perdons pas de temps. Qu'est-ce qui se passe
les
à Marseille demain?
Alors, qu'est-ce qui se passe à Marseille? C'est que demain, le 11-11, à 11h, le 11-1 à 11h, on a un rassemblement devant le consulat de Chine, en fait, en face du consulat de Chine, parce que la préfecture a refusé qu'on soit exactement devant le consulat. C'est au 367 avenue du Prado. C'est à 200 mètres à pied du rond-point du Prado, en direction de la plage, Jackson David sur.
Et pas très loin du stade d'OM, pour qu'on salue.
Exactement, pas loin du vélodrome, ouais.
Ouais, que. Ah ouais, je vous laisse le soin de le saluer.
Non, mais je salue.
Le vélodrome, voilà, exactement. Le temple du football.
Tu connais rien, mon Dieu, au football, arrête.
C'est pour que c'est top,
bon, pas la discussion avec votre football, cher Christophe.
En parlant, c'est vous qui avez commencé.
Non, mais moi, j'ai le droit de saluer l'OM. Mais oui, vous n'avez pas le droit de critiquer. Donc,
comment ça, j'ai pas le droit?
Non, mais après, dans l'émission sport, moi, j'ai salué parce qu'on parle de Marseille et de Ouïghours.
Oui, oui.
Et que c'est important ce que fait Mangi demain.
Je vois pas le rapport entre l'Olympique de Marseille et Ouïghours.
Parce qu'il y a plein de gens qui vont au stade et après ils vont au Ouïghours, ou l'inverse.
Alors,
bon, bah, écoutez, voilà, c'est pas loin du stade Vélodrome, effectivement, cher Mani. C'est à 11h pour dénoncer ce qui se passe actuellement en Chine avec les camps de la honte, les camps de redressement, comme ils appellent ça. Et en demandant à tous les Marseillais et les gens qui sont pas très loin de se joindre à nous, parce que c'est vraiment très important d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe en Chine.
Ouais.
Et que, je veux juste rappeler aux détracteurs, je rappelle juste que la Chine, c'est un impérialisme comme les autres, et ceux qui se doutent encore qu'ils aillent voir ce qu'ils font en Afrique. Voilà.
Bon, je peux rajouter quelque chose, Mongi, que vous ajoutez à votre agenda?
Pardon?
Je vous rajoute quelque chose que vous mettez à votre agenda.
Merci, c'est gentil.
Le 18 janvier prochain, de 14h à 18h, il y aura un rassemblement pareil devant donc l'ambassade de Chine à Paris, 18 janvier 2020, 14h-18h à Paris. Donc demain c'est à Marseille et le 18 c'est à Paris et les deux pour donc dénoncer ce qui se passe, ce que c'est.
Mais ne soyez pas quatre, hein. Voilà, faut sortir quoi.
Ouais, écoutez, on a fait de notre mieux.
Ouais. Non mais je parle pas de vous, je parle pas de vous.
Ouais. Nous,
je parle de ceux qui prennent le téléphone et qui viennent gueuler dans une radio et qui ne se déplacent pas lorsqu'il s'agit de
aujourd'hui,
le faire.
Voilà. Merci beaucoup.
Salut Mangi, à bientôt.
Au
non mais c'est vrai, quand on parle des Palestiniens, des Ouïghours, etc., il y a des rassemblements tout le temps. Aujourd'hui, ils sont combien? Il y a combien de personnes dans les rues?
Il y a les trois qui voilà. Signent l'appel et
c'est
la famille qui vient.
C'est non mais c'est dramatique. Ouais. Il faut du spectacle. Les gens ont besoin de spectacle. Voilà, il faut du sang.
Il faut que Trump fasse un tweet pour dire allez à la manif. Ah. Et là, vous allez avoir tous les évangélistes.
Toujours Farid, c'est vrai. Hein. 2014 et franchement, la preuve, elle est là. 2014, Gaza se fait massacrer. Il n'y a pas d'autre terme. Il a fallu que TF1 diffuse des images de quatre gosses qui se sont fait tuer sur la plage pour que les gens viennent par milliers dans les rues de Paris. Avant, il y avait personne.
Moi, je peux vous dire.
C'est un fait. Il est incontestable, celui-là.
Christophe, ça répond.
Je veux vous dire quelque chose qui m'a toujours marqué. Pendant justement cette guerre d'Irak, on pouvait plus faire l'émission à la radio tellement il y avait du monde. Donc, on a délocalisé et on tournait tous les week-ends dans un café différent. Et on avait 200 personnes dans la rue qui faisaient la queue pour rentrer prendre l'antenne. On devait faire une heure, on faisait 6 ou 7 heures d'office. Et le Bagdad tombe le mercredi. Samedi suivant, le rendez-vous est pris dans un café, donc on y va tous. On se retrouve l'équipe de la radio et 4 vieux militants qui sont venus. C'est-à-dire que quand l'émotion
ça répond à des codes émotifs.
C'est très révélateur.
Et psychologiques, qui sont dus à ces sujets-là, mais à plein d'autres. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. On parlait tout à l'heure de propagande et de manipulation. La réalité, c'est que les gens qui font de la propagande et de la manipulation, en réalité, perçoivent pertinemment ces codes-là.
Bien sûr.
Et on en joue. Quand tout à l'heure je dis qu'il suffit d'utiliser le terme d'Israël, ça marche toujours.
Oui.
Et ben c'est ça aussi. C'est pas forcément toujours de l'objectivité.
Non.
Malheureusement, je dis. Hein, parce que l'être humain est très faible, mais ça fonctionne toujours. Il suffit de parler d'islamophobie pour être certain que les gens vont se réveiller sans même savoir de quoi il s'agit derrière ou quoi que ce soit.
Ouais,
bref.
C'est
moi, j'ai une question à Christophe, par contre.
Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Alors, est-ce qu'il y a eu des conséquences à cette soi-disant grande manifestation contre l'islamophobie?
Des conséquences de quoi?
Des conséquences pratiques, un rassemblement, un parti, une association.
Pour l'heure, non. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Après, je suppose que beaucoup de personnes œuvrent à essayer de travailler et construire. J'imagine bien qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Mais pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il n'y a rien de concret. Mais c'est peut-être encore un petit peu frais. Voilà, ça fait 2 mois, hein, ce rassemblement. On est le 10 janvier d'ailleurs. C'était le 10 novembre dernier, si je ne m'abuse. 2 mois, voilà. Donc peut-être qu'il faudra encore un petit peu de temps. Mais bon, je voudrais qu'on parle vraiment un petit peu, parce que c'est important, de l'autre sujet, les tractations diplomatiques qui sont poursuivies autour du dossier libyen. Les ministres des Affaires étrangères françaises et saoudiens étaient à Tunis L'occasion pour la Tunisie de rappeler sa neutralité et sa disponibilité pour le dialogue dans ce conflit. Dans le même temps, les chefs des diplomaties italiennes et égyptiennes ont eux fait le déplacement à Alger. Autre pays dont les autorités ont récemment changé, vous le savez, l'Algérie veut une solution politique chez son voisin et surtout pas d'ingérence étrangère, et elle s'oppose à toute intervention étrangère donc dans le pays avec lequel elle partage quand même 1000 km de frontières. Même si elles ont condamné les violences répétées, leur refus d'une solution militaire, les autorités algériennes ont été discrètes sur le dossier libyen en 2019, notamment du fait du contexte interne. Cette semaine, Alger change de stratégie. Lundi, le président Abdelmadjid Tebboune reçoit Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement national libyen, puis le ministre des Affaires étrangères turc. Mercredi soir, c'est le ministre des Affaires étrangères italien qui fait le déplacement. Puis hier, son homologue égyptien. À chaque rencontre, les autorités algériennes répètent qu'il faut faire respecter le cessez-le-feu, l'embargo sur les armes. Elles appellent ainsi le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités en ce sens, car pour Alger, l'escalade des actes de violence est induite par les ingérences étrangères. Est-ce que vous partagez cet avis, Audrey, Farid, Tariq?
Audrey?
Bon, moi, je me suis pas vraiment penchée trop sur la question, donc je préfère d'abord vous laisser parler. Je vais être très honnête, là, pour le coup. Donc,
Farid,
bah, l'ingérence, c'est l'intervention française et de ses alliés sur le terrain, donc c'est pas nouveau. La dialectique algérienne est très connue, elle me rappelle d'ailleurs le Mali, tout simplement, hein, où pas d'ingérence, parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que cette sous-région-là, c'est la chasse gardée d'Alger. Hein. Alger veut qu'on garde mainmise sur le terrain. Alors c'est sa diplomatie très ancienne. La réalité, malheureusement, c'est que vous avez quasiment une guerre civile en Libye. Vous avez des ingérences. Vous avez les Français qui sont partis, mais qui sont très vite repartis également.
Les Français ne passent plus rien.
Où ça?
En Libye aujourd'hui.
Ah, en Libye, oui, d'accord.
Ils ne passent plus rien.
Je suis pas forcément d'accord là-dessus, mais bon, en tout cas beaucoup moins que lorsqu'ils ont fait l'intervention, lorsqu'ils ont bombardé. Vous avez les Turcs, donc Erdogan qui est présent. Vous avez, c'est assez complexe.
D'ailleurs, Erdogan et Poutine qui se sont rencontrés, cher Farid, ouais. Ils soutiennent des camps différents hein, en Libye.
Oui, tout à fait. Hein.
Ils ont appelé. Oui. Ouais. Ils ont appelé ensemble à l'appel d'un cessez-le-feu.
Ouais.
Une initiative qu'a salué d'ailleurs Khalifa Haftar, ouais. Mais le maréchal n'a pas l'air disposé visiblement à écouter. Il a affirmé dans le même temps qu'il poursuivrait son offensive. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire concrètement.
Moi, ce qui me gêne profondément, c'est l'interventionnisme de certains petits pays qui s'amusent à vouloir être des puissances, notamment des pays du Golfe,
ouais.
Qui par leur financement justement provoquent de plus en plus ce type de conflit.
Et la Turquie, tu condamnes l'intervention turque?
Oui, moi je condamne par définition, enfin l'impérialisme turc, je le condamne, mais pour moi la Turquie c'est juste le sous-jacent américain, hein. C'est pas plus que ça en Libye. Hein.
Tariq Mami.
Alors, effectivement, la genèse de l'interventionnisme d'aujourd'hui, c'est l'interventionnisme de la France, pour des raisons personnelles de M. Sarkozy, pour tuer, ouais. pour faire tuer Gaddafi. Et aujourd'hui, la question du pétrole et surtout du gaz libyen est devenue la principale pomme, non pas de discorde, mais d'envie. Et les Turcs qui, eux, la géographie leur a donné tort parce que vous avez du gaz aujourd'hui dans toute la Méditerranée, en Égypte, oui. Devant Gaza, oui. Pas devant Israël.
Ah bon, moi j'ai vu qu'il y avait un gisement.
Ça s'arrête précisément devant.
C'est extraordinaire, c'est de la nature.
Il faut arrêter de dire des bêtises.
Après, un peu devant la Syrie.
Oui, mais alors il appartient.
Attendez. Après, devant Chypre et la Grèce. Ouais. Après, il n'y a pas devant la Turquie. Et une grande partie côté libyen. Donc le Turc se retrouve avec l'histoire, je vais faire plaisir à quelques auditeurs de 2013-2014, se retrouve avec la question des gazoducs. Qui a déclenché la guerre du Syrie. Parce que je rappelle que la guerre du Syrie est déclenchée par la question des gazoducs du Qatar qui devait passer par la Turquie et de l'Iran qui devait passer par la Syrie. Et quand le président Bachar a choisi de prendre le gazoduc de l'Iran qui passe par son pays sans passer par la Turquie, c'est là où cette guerre s'est déclenchée. Et aujourd'hui, on peut dire que Poutine, c'est deux, Erdogan 1, comme un match de foot, parce que Poutine, il a récupéré le premier gazoduc Iran-Syrie, et il récupère le deuxième gazoduc Turquie-Russie, et Erdogan a quand même marqué un point extraordinaire en 10 ans, il récupère le gazoduc russe, alors qu'il a perdu le gazoduc du Qatar. Et en face de la Turquie, comme elle n'a pas de gaz, il y a la Libye. Et je l'ai dit la semaine dernière, mais je vais le synthétiser. Erdogan va en Libye pour deux raisons. La première, officiellement, c'est pour défendre les Libyens, mais pour prendre le gaz. Et deux, pour pouvoir évacuer les 30 000 terroristes qui sont du côté d'Idleb,
qu'il faut occuper,
et qu'il faut sortir d'Idleb l'amener hier. Parce que s'ils sortent d'Idleb sans aller en Libye, ils vont se retrouver en Turquie. Et la Turquie.
Non, mais le vrai problème, à mon avis.
Là, le vrai problème, c'est que j'ai de la pub. Et ça, c'est un problème, mon Farid. Tu peux rien y faire.
Je comprends.
Et j'ai un petit quiz aussi. Il faudrait qu'on dise deux mots aussi sur ce qui est les tractations en cours avec les syndicats et le Premier ministre, Édouard Philippe. Ça discute beaucoup.
Il reste 10 minutes.
Mais a priori, ils n'ont pas l'air décidés d'en sortir pour l'instant. Tout de suite.
France Maghreb 2.
L'émission passe à une vitesse incroyable avec Audrey Pronosti, Farid Tamsamani.
Surtout quand Cher Farid est là de temps en temps,
oui.
Ça amène la contradiction.
Bah oui, voilà, il en faut.
Ah, je suis un bon client quand même.
Bon, alors très rapidement, par contre, je compte sur votre discipline parce que je tiens au quiz aujourd'hui. Les syndicats qui se succèdent depuis ce matin, vous le savez, à Matignon, la résidence du Premier ministre français, Édouard Philippe, négociations sur le financement des retraites alors qu'on en est au 37e jour de grève, messieurs, dames, contre la réforme des retraites, voulue par Emmanuel Macron. Réforme à laquelle reste opposée une majorité de Français. Alors aujourd'hui, il est surtout question de l'âge pivot de 64 ans et son bonus-malus pour les futures pensions. Eh bien, la sortie de sa rencontre avec le Premier ministre, le patron de l'UNSA dit qu'il a bon espoir que la mesure, que l'âge pivot, soit retirée dans les prochaines heures. Affaire à suivre, ça c'est à surveiller de très près. Donc, on pourrait céder côté gouvernement sur l'âge pivot.
Ça serait une bonne chose.
Et ce qui permettrait de sortir justement et de créer une pagaille dans les syndicats, parce qu'on sait que par exemple la CFDT. Non, mais
au-delà de pagaille,
la CGT, elle demande un retrait purement et simplement.
Mais l'avantage, c'est qu'on partirait sur un principe général, l'universel, et après que chaque syndicat dans son secteur d'activité se batte pour obtenir ce que moi j'appelle passer du spécial au spécifique.
Faut-il savoir faire
le spécial, c'est pour la SNCF, pour les avocats, pour le truc. Le spécifique, c'est que dans tous les métiers, on prend la chose la plus difficile et on donne les avantages.
Faut-il savoir terminer une grève ?
Oui.
Oui, je pense. À un moment, il faut arrêter, quoi. Ouais. Je sais pas.
Surtout pour ceux qui galèrent depuis 36 jours.
Oui, comme nous.
Les petits gens
que nous sommes. Allez, le quiz, c'est parti.
Ah, déjà ?
Le quiz.
On aura du retard s'il y a des questions 57. De la France. Comme les autres, à l'international, on est bon. Mais sur la France.
Bon, Audrey.
Oui.
Tu fais pas ça demain, le jour.
Non, mais Audrey va être bon sur la France, puisqu'elle a suivi.
Ouais, je sais pas. Tiens, première question. Quel roi a invité le président tunisien à venir visiter son pays ?
J'y vais au hasard.
Le roi. Hassan II ?
Jordanie ?
Non.
Hassan II, il est plus.
C'était où, mais quelle époque ?
Non. Vous savez qu'il a toujours pas quitté
Maroc ?
Non, c'est pas le Maroc.
C'est un roi ?
Quel roi ? Le roi de quel pays a invité
Arabie Saoudite
ouais. Est une bonne réponse. Le roi d'Arabie Saoudite a invité Kais Saied à venir visiter son pays.
En fait, j'ai pas dit tout de suite l'Arabie Saoudite.
Vous savez qu'il est toujours pas sorti de la Tunisie, Kais Saied.
Il a pas de passeport.
Bon, question facile, ça va jouer à la rapidité. Le Premier ministre de quel pays a affirmé avoir les preuves?
Canada.
Justin Trudeau.
Ouais, Canada.
Alors, ah mince.
Ça fait 3 parce que vous la donnez à qui vous voulez, mais les trois
outils. Quel ministre ?
Oui,
quel premier ministre.
Donc vous avez donné le nom, et nous on a dit Canada.
C'était quoi la question ?
Non, la question exacte c'est le premier ministre de quel pays ?
Donc on a.
Avoir les preuves.
Autant pour moi, mais alors comment ça marche ?
Que le bowling.
Non, mais les trois outils
ont été abattus.
Et je vais pas être prétentieux.
Non, mais c'est quoi ? Il y a une question là ?
Alors, qui a gagné le point ?
Bah écoutez, moi je pense que comme ça, d'après mes oreilles, c'est Farid qui a eu le point, mais
il me semble que c'est Farid aussi.
Ça me semble, hein.
C'est pas mais on peut le partager le point.
Non, mais c'est pas un problème.
Bon, allez,
on partage le
2-0. Tiens, question pour vous tous. Quel réalisateur français a été condamné à verser 10 000 euros d'amende pour avoir licencié son assistante ?
Besson. Non, mais tout à fait. Vrai. Non, mais moi j'avais la gueule du mec.
J'ai pensé à lui tout de suite.
Non, mais j'ai la gueule du mec, mais pas le nom.
Bon,
oui, c'est Besson.
C'est celui qui a le plus d'histoire.
Oui, c'est ça.
qui va être.
Ah, ça c'est pour Tarek, j'en suis sûr. Affaire des écoutes. L'ancien président Nicolas
Sarkozy, va passer au tribunal.
Attendez, écoutez ma question.
Le 22 octobre avec son avocat.
Bon, c'est quoi la question? C'était la question. Il sera jugé pour corruption, mais quel mois il m'a donné?
Octobre.
Du 5 au 22 octobre, ouais. Exactement.
Ah non, mais là, c'est plus la rapidité.
Alors attention,
là, c'est pas la rapidité.
Ça, c'est la lecture.
Un pour Tarek, un pour Audrey, deux pour Farid. Dernière question. Quelle chaîne de magasins va verser 46 millions de dollars? Qui a dit Ikea?
Farid.
Ouais. Et pourquoi?
Il y a un meuble qui est tombé sur un enfant
de 2 ans.
Exactement.
Et qui a son enfant, cet enfant est mort, hein.
Ah oui.
Ah oui, il est mort. Ça a chuté. Et Ikea est condamné donc à verser 46 millions de dollars. Ça se passe aux États-Unis. Alors, victoire de Farid Tabsabani.
Alors, si les gosses coûtaient 46 millions.
46 millions de dollars.
Je vais juste demander aux Américains de verser la même somme pour chaque gosse irakien, 500 000, qui ont été tués par l'embargo dans la bouche de Madame Albright.
Hors sujet, puisque ça n'est pas les États-Unis d'Amérique qui versent 46 millions, mais une chaîne suédoise.
C'est une chaîne suédoise, c'est Ikea. Non, moi, ça s'est passé aux États-Unis, non, c'est tout.
Je sais, mais des fois, il faut se moquer de l'éthique. Donc, une société paye 46 millions pour un gosse et un pays ne paye pas 46 millions pour 500 000 morts gamins.
Ouais, mais c'est une chaîne de magasins qui a été condamnée à payer cette somme.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour condamner les États-Unis à payer. Parce que sinon, elles seraient condamnées à payer.
Ah, mais moi, j'étais persuadée que tu allais parler de date et tout. Donc, j'étais pas forcément.
Ah non, on a changé les règles. Il n'y a plus de date. Hein, ouais, depuis qu'il y a eu des
dates, c'est pour le ramadan.
Tu sèches, tout
fait,
ça.
J'essaye de devancer sans vraiment écouter les questions parce que je sais que j'en ai deux loustiques à côté là.
Bon, bah ça va, t'as marqué ton point.
T'as marqué un point.
Ouais, mais bon.
Tarek aussi.
Oh, moi je m'en fous.
Victoire de Farid.
Canada, j'aurais pu l'avoir.
Ouais,
bon.
Bah écoute, voilà. Il faut bien aussi écouter les questions parce qu'on peut se planter parfois. Ouais. Hein, sur l'intitulé. Ouais. Bon, en tout cas, victoire. Bravo, mon Farid. Eh, c'est pas le deuxième là que tu gagnes?
De cette année, je pense.
Ouais,
c'est bravo.
Bien. Et je pense qu'avec ce nouveau quiz actu, ça va rechanger toutes les règles et tout le classement.
On est loin quand même.
Non, ouais.
Je l'ai vu le classement. Voilà.
Non, mais moi, depuis que je gagne, je suis toujours à 3 points et demi.
C'est pas normal.
Il y a
un truc qui se passe, c'est un peu comme tu disais, ça avance pas là.
Non, mais j'ai les points qui montent.
Ouais.
Et assez bien. Mais de l'autre côté, je suis toujours à 3-5.
Et puis en plus,
je sais pas.
Quand notre frère Gamal va revenir, à mon avis, tout ça s'est plié.
Bon, merci à tous et bon week-end. Et on souhaite par avance une nouvelle année aux Berbères qui passent en 2970.
5 secondes pour dire que les Tunisiens sont toujours en cours de vote dans leur assemblée. Mais à quel instant je vous parle, on n'a pas l'information si le gouvernement passe ou passe pas. Parce que si ça passe, c'est un petit soulagement, on verra dans quelques mois. Et si ça passe pas, l'économie tunisienne va recevoir demain 3 nouveaux coups de bâton sur la tête.
Oui, donc je disais, les Berbères sont dans le turfu, hein, 2970. Ils vont passer
et demain soir, ils fêtent leur fête à la mairie de Paris.
Ah oui.
Et la bonne nouvelle, c'est que c'est notre DJ à nous, DJ Nabil, qui va animer la soirée à la mairie de Paris.
Absolument.
Faut le faire quand même.
Hein. Ouais, c'est bien.
Vive
c'est
les
bien.
Élections.
Madame Anne Hidalgo qui a promis, rappelons-le, la gratuité des transports aux moins de 18 ans, si elle est réélue. Hein.
Ça a été fait dans une autre ville de France. J'ai lu, je sais pas quelle ville.
Dunkerque, je crois, non?
Je sais pas, mais une ville l'a fait. Et apparemment, ça a arrêté beaucoup de violence.
Ah ouais?
Et beaucoup de bousculades.
Mais pourquoi elle l'a pas fait maintenant?
Non, mais parce qu'elle copie.
Si je suis réélu.
Non, mais beaucoup de bousculades.
Et surtout, vous connaissez la réalité.
Surtout, beaucoup d'altercations.
Mais surtout que c'est pas Anne Hidalgo qui va payer.
Oui, bien sûr.
Bah non, c'est pas
Hidalgo. Oui, parce qu'en fait, elle décide de quelque chose dont elle n'a pas le pouvoir.
De régional, oui.
C'est régional.
C'est pas Pécresse. Mais c'est en accord avec Pécresse. Non, mais parce que
Pécresse n'a jamais.
Pécresse a fait.
Avait subir cette décision électorale.
Pécresse a déjà fait pour les plus de 65 ans la gratuité totale pour le métro. Les 60 ans à 65 ans, 50%. Et il y a une autre initiative. Elle a accepté avec la RATP.
Tu arrives bientôt, Farid.
De baisser les tarifs de Navigo pour tous, puisqu'aujourd'hui, qu'on habite Paris, qu'on fasse une zone ou quatre zones, on paye la même chose, alors qu'avant, les Parisiens étaient le moins cher.
Allez, dehors, tout le monde.
Au revoir.
C'est l'heure, parce que l'heure, c'est l'heure. Hein, moi, il faut que je rentre à la maison, les gars.
Ciao.
Salut Audrey, salut Farid, salut Tarek, bon week-end à lundi. Ciao.
Merci à tous.
18h01 sur France Magazine, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi soir. Sans pitance, bonsoir.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, Laurent Berger qui campe sur ses positions. Le leader de la CFDT a rappelé son engagement à faire tomber l'âge pivot à l'issue de son entretien à Matignon. Le grand oral d'Emmanuel Macron, mais pas sur la question des retraites. Le président de la République rencontre pour la première fois les membres de la Convention citoyenne sur le climat. Et puis, les volleyeurs français à un match des Jeux, les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir en finale du tournoi de qualification olympique. Une heure et demie de réunion et toujours pas de solution. Voilà ce qu'on peut dire de cet entretien entre Édouard Philippe et Laurent Berger. Aucun compromis sur le financement du système des retraites n'a été trouvé. Le leader de la CFDT réclame la suppression de l'âge pivot à 64 ans. Écoutez.
On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Mais encore une fois, je dirais, comme je l'ai dit depuis maintenant quelques jours, tout ça se mesure in fine aux actes. Et les actes, évidemment, nous n'avons pas eu les réponses ce soir. J'espère que très très vite, parce que ça n'a que trop duré. Et je crois que finalement, la logique un peu d'affrontement qui est celle des dernières semaines nuit à un vrai débat sur un système universel juste. On espérait avoir été entendu. Et donc la CFDT, pour l'instant, elle continue de revendiquer la fin de l'âge pivot dans cette loi, et elle continuera de le faire.
Et Laurent Berger qui souhaite toujours participer à la conférence de financement de la réforme des retraites. Et après la grande journée de mobilisation nationale, le parquet de Paris a ouvert deux enquêtes pour violences volontaires. La première concerne un policier filmé en train de tirer un LBD à bout portant sur la foule à Paris. L'autre implique également un policier, auteur de coups de matraque sur une manifestante. L'IGPN s'est saisi de ces deux affaires. Et côté transport, la SNCF prévoit du mieux sur les rails ce week-end. Comptez 4 TGV sur 5 en moyenne, avec un retour progressif à la normale d'ici lundi. Un train sur deux en service pour les TER et 2/5 pour les intercités. C'était l'une des mesures issues du grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat. Elle réunit 150 Français tirés au sort, censés représenter l'ensemble de la population. Et ce soir, Emmanuel Macron doit s'adresser à eux. Ces réponses seront suivies de près, Olivier Montaigu.
Oui, parce que cette audition, eh bien, ce sont les 150 citoyens de la Convention qui l'ont réclamé depuis 4 mois. Un week-end sur deux, ils planchent, entre autres, sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et le président devra se montrer précis sur ses intentions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il en va de la crédibilité de cette Convention, dont les propositions, je vous le rappelle, seront soumises telles à l'Assemblée pour être votée ou bien soumise au référendum. Des propositions autour de 5 grands thèmes, se déplacer, se loger, se nourrir, consommer, produire et travailler.
Et le chef de l'État prononce ce soir un discours avant de répondre à chaque question préparée par les membres de la Convention. L'ancien patron de France Offshore, Nadav Bensoussan, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, il a été placé en détention provisoire. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir mis en place un système de compte offshore via une société basée en Suisse et en Belgique. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont en jeu. Nadav Bensoussan a déjà été condamné à 2 ans de prison ferme pour des faits similaires. L'Iran se dédouane de toute responsabilité après le crash d'un Boeing 737 mercredi près de Téhéran. Hier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que l'appareil de la compagnie Ukraine International Airlines avait été abattu par un missile. La catastrophe a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens. La thèse d'un tir de missile également partagée par le secrétaire général de l'OTAN. On passe au sport avec d'abord un mot de biathlon et un coup double pour les Français sur le sprint masculin disputé cet après-midi en Allemagne. Victoire de Martin Fourcade et deuxième place sur le podium pour Émilien Jacquelin. Du hand et l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro masculin, les Bleus débutent par un match piège. C'est face au Portugal en Norvège, coup d'envoi à 18h15. Un rendez-vous capital aussi pour l'équipe de France de volley. Les hommes de Laurenti disputent la finale du TQO à Berlin face à l'Allemagne au lendemain de leur exploit face à la Slovénie. Un exploit pour rien s'ils ne s'imposent pas ce soir. Pour Antoine Brizard, le passeur tricolore à l'issue de la rencontre hier soir.
C'est dur comme tournoi parce qu'on sort d'un match comme on en joue rarement, avec une intensité incroyable, un scénario incroyable. Et dans des compétitions normales, on prend une médaille pour ça. Et là, on peut être comme des cons demain. Pardon. Et c'est incroyable, mais c'est rien. Voilà, on n'a rien fait.
France-Allemagne, c'est donc ce soir à 21h10. Rappelons que le vainqueur sera qualifié pour les JO de Tokyo. Enfin du foot et le retour de la Ligue 1 ce soir avec un choc au programme. L'OM se déplace sur la pelouse du Roizen Park face au Stade Rennais. Ça commence à 20h45. Voilà pour l'actualité. Très belle soirée à tous.
France-Maghreb 2. France-Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.